Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
En République démocratique du Congo, le secteur de l'exploitation du bois est très florissant, mais un constat, cette activité ne contribue pas toujours au développement des communautés vivant dans les zones d'exploitation forestière. Les exploitants ne tiennent pas compte des besoins exprimés par les populations. Alors, tout faire aujourd'hui pour que l'exploitation du bois contribue au développement local, au développement communautaire. Professeur Jean-Pierre Béillard.
Jean-Pierre, oui.
Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes environnementaliste et expert en développement.
Oui.
D'abord, la question est de savoir qu'est-ce qui fait que l'exploitation du bois ne contribue pas au développement des communautés locales.
Oui, avant de répondre à la question, il faudrait définir d'abord la forêt, oui, la forêt, comme on l'a dit, c'est tout un écosystème. Et c'est un écosystème, quand on parle de la forêt, on pense seulement au bois. Mais dans la forêt, il y a aussi les animaux, des plantes médicinales, toutes sortes de biodiversité qu'il faut gérer. Alors, quand on parle de forêt, il faut penser globalement à cet écosystème. Et quand on dit exploitation de la forêt, les gens pensent directement au bois et aux arbres, mais ils ne pensent pas à ce que se trouve dans la forêt comme biodiversité. Alors, comment la forêt n'arrive pas à nourrir ceux qui habitent dans la forêt, si on peut dire ainsi?
Oui.
C'est parce qu'il y a un grand problème de politique locale. Il faudrait instaurer une politique d'exploitation qui peut profiter aux indigènes, aux gens qui vivent dans la forêt, si on peut dire ainsi.
Mm.
Malheureusement,
les autochtones,
oui, voilà. Alors, malheureusement, les gens qui viennent avec des contrats, avec des permis, qu'on leur a donné par-ci par-là, exploitent sans parfois respecter les cahiers de charges. Et pour respecter les cahiers de charges, il faut qu'il y ait un suivi.
Donc avant que l'État donne le permis d'exploitation, il y a un cahier de charges qui doit être soumis.
Oui, il y a un cahier de charges. Dans le cahier de charges, il y a entre autres, par exemple, l'éducation de la population autochtone, et puis les salaires même des travailleurs qui travaillent dans cette contrée. Il y a même la santé, on doit construire les hôpitaux, les écoles, et tout cela.
Réparer les ponts.
Oui, réparer les ponts et les infrastructures. Et la répartition même, avec une partie de distribution bien élaborée.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, quand on présente ce cahier de charges, c'est bien rempli, mais sur l'applicabilité, rien ne se fait. Donc, le grand problème se trouve au niveau des gens qui livrent ces permis. Ils les livrent très bien, mais les suivis du cahier de charges n'a jamais été fait correctement.
Mais avant d'élaborer leur cahier de charges, est-ce que ces sociétés ont le temps de discuter avec les autochtones pour savoir quels sont vos besoins et on est prêt à pouvoir vous aider dans ce sens?
Vous savez, celui qui vient exploiter s'intéresse trop peu aux besoins. Mais seulement quand il y avait le cahier de charges qui doit remplir certaines conditions par l'État, parce que c'est l'État qui connaît qui pose certaines conditions. Vous allez exploiter telle forêt, conditions, il faut tel salaire, il faut les infrastructures, le pont, et il faut même limiter la quantité de bois qu'il faut exploiter. Alors, quand on remplit très bien ce formulaire au secteur des charges, il faut qu'il y ait un suivi pour savoir exactement ce que les charges à respecter. S'il n'y a pas de suivi, un monsieur qui vient de l'Europe ou de France ou d'Allemagne, il va exploiter comme il veut et il n'y a pas de contraintes. Alors, dès lors que le cahier de charges n'est pas respecté, l'État a le droit de retirer le permis. Donc, vous comprenez, c'est ça le problème. Le grand problème se trouve en amont. En amont, c'est-à-dire que vous élaborez un très beau cahier de charges, très bien, un bon dossier. Et maintenant, sur le terrain, rien ne s'applique.
On a aussi déjà suivi les autochtones ont manifesté pour réclamer leurs droits, mais parfois ces sociétés envoient des policiers les arrêter, on va les tabasser et puis ça passe comme ça.
Oui, justement, c'est ça le problème. On a l'impression que les autochtones se trouvent dans un pays qui a des lois. Alors, mais quand on les tabasse, je me rappelle, il y a une petite histoire à Chicapa, donc il y a des gens qui viennent exploiter le diamant. Alors, ils chassent tout le monde. Les gens qui viennent puiser de l'eau, ils sont chassés. Et pourtant, ces personnes-là manquent des ressources, alors que c'est rivière. Vous voyez, donc, nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans un système réglementé. Il y a l'État qui doit réguler tous ces problèmes-là. Donc, c'est le grand problème, c'est des suivis. Hein? Il y a d'autres qui vont avoir des suivis, des cahiers de charges. Parce que quand ces gens avant de leur donner le permis, il y a tout un dossier qu'on doit monter. Donc, il y a un cahier de charges qui doit respecter. Alors, si les autochtones réclament, ça veut dire qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas.
Donc, c'est ce que, le plus grand problème, le gros problème qui se fait aujourd'hui, ces gens ne respectent pas leurs engagements, c'est parce qu'il n'y a pas un suivi.
Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi de part de l'État.
Ça veut dire que pourquoi il n'y a pas de suivi?
Bon, ça c'est encore un cercle vicieux. Il n'y a pas de suivi parce que les gens ne suivent pas. Parce que vous voyez souvent quand on introduit ces dossiers, il y a beaucoup de magouilles, la corruption.
Parce que les gens sont corrompus.
Bon, d'abord, il faut que les dossiers soient acceptés.
Il y a des pots de vin,
finalement, les dossiers sont acceptés. Mais maintenant, au niveau de contrôle, on envoie même des inspecteurs pour contrôler. Ils sont aussi corrompus. Et les choses restent comme ça, à la longue. Même à un certain moment, voilà, les gens se révoltent. Même quand ils se révoltent, on ne les écoute même pas.
C'est ça, on les arrête.
On les arrête même, on les envoie même au cachot. C'est ça, la grande difficulté. C'est la grande difficulté.
C'est la grande difficulté. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la solution? Parce que les services, certains, ceux qui sont dans les services et l'État qui sont censés faire le suivi, certains sont corrompus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la solution?
La solution revient toujours à l'État, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre des choses sérieuses. C'est-à-dire contrôler les permis d'exploitation. Et ces permis d'exploitation, il y en a qui ont une certaine durée. Et vous trouvez des gens qui dépassent la durée de leur permis. Donc, en fait, au départ, on commence par présenter les cahiers de charges, comme je viens de le dire. Dans les cahiers de charges, on doit montrer ce qu'on doit faire. Quelle quantité, comment on va exploiter la forêt, et quelles sont les retombées pour la population autochtone. Les retombées, c'est quoi? Sur le plan social. Il faudrait qu'il y ait nécessairement des écoles, les hôpitaux, certaines infrastructures permettant permettant le développement de contrées. Alors, maintenant, dès que ce cahier de charge est établi, à un certain moment, il faudrait suivre. Est-ce que vous avez dit, pendant telle période, nous allons construire une école? On l'avait fait? Oui ou non? Pendant telle période, vous avez dit, vous allez construire une maternité ou un hôpital? Vous allez construire un pont, réhabiliter une route, ainsi de suite. Alors, si on n'a pas fait, on retire les permis d'exploitation. Il n'y a pas à discuter. Mais quand la magouille entre, et on fait intervenir les militaires, vous comprenez, dans notre pays, des grandes personnalités, des généraux qui s'intègrent dans ce processus.
Et chacun sort s'attirer son bénéfice, son intérêt personnel.
C'est ça. Les pauvres paysans ne peuvent pas parler. Vous parlez, on vous mate, et puis ça pose des problèmes. C'est le grand problème, moi, à mon avis, le grand problème, c'est au niveau de l'État ou de l'institution chargée de l'environnement et de l'exploitation de la forêt.
La corruption au niveau du service.
Et la corruption, oui, au niveau du service de l'État. Bon, en fait, la corruption existe partout, hein, dans tout le pays, il y a la corruption, mais il y a le minimum de sérieux qu'il faut prendre. Pour une ressource naturelle comme la forêt, il faut prendre des décisions importantes. Ceci, c'est pour le développement du pays.
Bien, nous avons un auditeur en ligne depuis Lubumbashi, il s'appelle Freddy Kabamba. Bonjour. Freddy Kabamba.
Notre invité.
Oui, on vous écoute, Freddy.
Ça va, en fait, moi, premièrement, je vais contribuer.
Oui, on vous écoute.
Oui.
On vous écoute.
Oui. Vous m'entendez bien, l'article, c'est quoi? C'est égaux devant la loi. C'est voir, moi, j'ai des parisiens, en gros, que si vous dites, on m'a dit, vous allez vous dire, mais le colonel dit, si il y a une forêt là-bas, mais je vous dis, pas qu'il est en train d'exploiter. Là, qui exploite les forêts là, qui est entre Angola et le Congo. C'est alors que l'autorité congolaise qui les exploite comme ça, mais là,
Freddy, la ligne n'est pas du tout bonne aujourd'hui. La ligne n'est pas du tout bonne. Allez, tentez de nous rappeler plus tard parce que là, on n'arrive pas à saisir exactement ce que vous dites. Désolé, Freddy. Albert Monanga et Kakananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, c'est moi, Nanga Kananga, je vous appelle.
On vous écoute, Albert.
Oui, j'ai quelques questions à poser à notre invité.
Oui.
La première est la suivante. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'exploitation forestière? La deuxième, quelles conséquences on peut subir lorsque il n'y a pas l'applicabilité des cahiers de charges? Et comment remédier? La troisième, quel genre de forêt qu'on peut donner le cahier de charges? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole.
Bien, merci, professeur Jean-Pierre.
Oui, il parle de l'avantage inconvénient de l'exploitation de la forêt. Bon, la forêt, c'est une ressource naturelle. Il faut l'exploiter à un moment donné pour faire du bois, par exemple, de menuiserie, du bois qui sert à la construction, du bois qui sert aux meubles, et ainsi de suite. Ça, c'est l'avantage, c'est connaître l'usage du bois. Alors, l'exploitation aussi de la forêt, l'exploitation abusive de la forêt a des inconvénients sur le climat. Vous savez que la forêt sert à séquestrer le CO2, le CO2 qui est à la base des effets de serre avec le réchauffement climatique que nous connaissons. Alors, quand il y a exploitation abusive de la forêt, il y a déséquilibre de climat. Il y a aussi la biodiversité qui disparaît. Là, par exemple, si aujourd'hui les arbres sur lesquels se trouvent les chenilles, le mastamba, il connaît très bien. Et si ces arbres disparaissent, on n'aura plus de ces chenilles-là. Donc, la biodiversité, si il y a disparition des arbres, et toutes ces chenilles, tous ces papillons, tous ces animaux qui se nourrissent de ces plantes, vont à un moment donné disparaître. C'est ça l'inconvénient de l'exploitation abusive. Donc, il faut exploiter de manière durable la forêt, parce qu'on doit se servir du bois pour des chaises, pour la construction.
Alors, après avoir coupé, il faut reboiser immédiatement.
Oui, il y a des techniques de coupage. Hein. Il y a des techniques, les forestiers, ceux qui ont fait des études de foresterie, savent comment il faut couper les anciens arbres et couper d'autres des arbres jeunes pour permettre que ces arbres repoussent encore.
Mmh.
Oui. La deuxième question que je
pose. Bon, il a parlé des conséquences de l'exploitation abusive de la forêt, et puis il parle de quel type de forêt exploiter.
Bon, il y a plusieurs types de forêts. Hein. Les gens qui ont fait des études agronomiques savent qu'il y a beaucoup de types de forêts. En fait, ce n'est pas le choix des types de forêts qui peut résoudre le problème de la société. Hein.
Mm-hmm.
La forêt est une forêt avec son écosystème bien déterminé. Mais le problème que nous avons actuellement, c'est de savoir gérer des forêts. Hein, savoir gérer des forêts. Dire qu'il faut exploiter tel type de forêt, exploiter ne pas exploiter l'autre, c'est un peu trop dire.
Mm-hmm.
Mais néanmoins, dans le code forestier, il existe un autre pays, ce qu'on appelle le code forestier. Donc, dans ce code forestier, il y a des espaces qu'on a déterminés pour exploiter et d'autres espaces qu'on laisse pour que la forêt se régénère, ainsi de suite. Donc, il y a le code forestier avec toute une carte. Et soit quand on donne l'exploitation, le permis d'exploitation à un exploitant, on lui dit, va à tel endroit, il faut exploiter à tel endroit pendant telle période. Et ainsi de suite. Il y a toute une réglementation là-dessus.
Voilà. Oui. Que faire pour que l'exploitation forestière contribue au développement local? On en parle avec le professeur Jean-Pierre Béat, environnementaliste. Des questions, notre préoccupation, appelez-nous au 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Capine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits fracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Bien, que faire aujourd'hui pour que l'exploitation du bois contribue au développement communautaire, au développement local des populations? C'est vrai, Malima, vous êtes à Isiro, en province orientale, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question, c'est vrai?
Oui, monsieur le journaliste, le sujet du jour est vraiment intéressant. Nous savons que la République...
Oui, c'est Vera. Oh, désolé. Il n'est plus en ligne. C'est Vera, tenté de nous rappeler. Encore une fois, Ogi Bendelo nous appelle les circuits. Bonjour.
Bonjour, je vous donne un cas de ma. Je salue aussi l'invité Prof. Jean-Pierre Boya. Je n'oublie pas de saluer tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Merci. Votre question.
Je dis que le sujet est très intéressant, mais j'ai de l'inquiétude de voir. Or, les forêts, les bois en soi, sont utiles à plusieurs choses aussi qu'on doit fabriquer en RDC. Maintenant, avoir ceux qui sont d'abord concernés à ce sujet ou à ce service sont corrompus. Donc, je comprends que la corruption commence premièrement par notre État. Et moi, j'ai vu que la corruption pouvait être de notre État. Donc, l'État congolais peut organiser une politique d'exploitation des bois dans toutes les grandes forêts de la République démocratique du Congo.
Alors, dites-nous, est-ce que vous avez des informations sur l'exploitation du bois à Kikwit ou aux environs? Comment ça se passe? Est-ce que la population, les communautés ont tiré quand même bénéfice de cette exploitation?
S'il vous plaît, je dis qu'en sa majorité, vous assurez que la population ne bénéficie de rien, sauf que on va voir les gens qui viennent pour exploiter des forêts qui ont des permis d'exploitation, qui manquent même des signatures, accompagnés de policiers. Donc, les gens des environs ne bénéficient de rien, qui sont bâtis peut-être parfois, et vous allez voir qu'ils sont en train d'exploiter la forêt jusqu'à leur désir de partir en mettre les bois. On voit parfois même des tracteurs remplis de morceaux de bois de pile, donc, avec des parties et la population ne gagne de rien. Je dis moi-même, à côté de Diofa, tout le long de la région Pachaïla. Moi-même, je décris ça.
Oui. Merci, Ogi. Donc, la question était de savoir.
Ma question était de répéter que notre État puisse organiser une politique d'exploitation de ces forêts-là, de ces bois.
Merci, Ogi Bendelo. Georges Soubousou, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, Radio Okapi.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Je salue le passage du professeur Kabe, à qui je connais particulièrement. Je suis anesthésiste.
Mm-hmm.
Le grand petit canard est bon que le Congo pourrait suivre. Parce que, selon les informations que nous avons, le canard accompagne les autochtones dans la négociation des contrats. Et il encadre les petits exploitants par rapport à la fixation des prix pour que avec les multinationales. C'est l'État ghanéen qui négocie les contrats. Est-ce que la RDC ne pourra pas emboîter les pas du Ghana dans la coopération scientifique? Quel est l'avis de Professeur Béa? Ça, c'est la première question.
Mm-hmm.
Et une opinion pense que la société civile, tant qu'elle n'est pas organisée, tant qu'elle n'est pas forte, les multinationales exploitent toujours, et cela même dans des pays développés. Quel conseil les professeurs donneraient à la société civile du Congo envie de récupérer ses droits et sur quelle cause de forestier n'est pas suffisamment vulgarisé? Merci, Radio.
Merci, Georges. Professeur Jean-Pierre.
Oui, merci, Georges, pour votre question. Mais il y a quelque chose qui était mis au point, mis sur place, c'est les codes forestiers. C'est une loi, c'est une réglementation.
Mm-hmm.
Vous savez, dans notre pays, il y a de très belles lois, bien rédigées, mais qui ne sont pas appliquées.
Mm-hmm.
C'est ça la grande difficulté. On ne peut pas aller ailleurs en dehors de ce code forestier qui est bien élaboré. Même si on parle aujourd'hui, certaines personnes disent que c'est un copier-coller de certaines sociétés. Et vous parlez des Ghana, c'est très bien, c'est mon information. Ils ont aussi dans leur pays les codes forestiers. C'est dans ces codes forestiers-là qu'ils ont marqué tout ce que vous venez de dire là.
L'État négocie le contrat avec le multinational.
Oui,
en faveur des populations locales.
Mais ça, c'est ce qui se fait au Ghana. Sûrement dans les codes forestiers, que je n'ai pas sur place, ils doivent savoir tous ces problèmes-là.
Mais chez nous, l'État ne négocie pas directement en faveur des populations locales.
Non, chez nous ici, c'est tout simplement quoi? Le monsieur vient avec son projet d'exploitation. On examine les dossiers, bon, vous comprenez, examine le dossier entre guillemets, et on lui donne le permis d'exploitation. Mais dans son cahier de charges, il est prévu l'aspect social. C'est l'école, santé, les routes, les infrastructures, tout est prévu dans ses cahiers de charges avant qu'il exploite la forêt. Tout est prévu. Donc tout est dans les codes forestiers. Maintenant, comme je viens de le dire, c'est le problème du suivi. Hein, on donne un permis à quelqu'un, on prend l'argent, et on donne les taxes,
mais c'est fini.
Et puis c'est fini, il n'y a pas de suivi. Et même si il y a un suivi, on vous envoie pour faire le suivi, la corruption, et les gens réclament, il y a des problèmes. Et moi, je crois que pour dire, pour parler et répondre à mon autre interlocuteur, il faudrait revoir ces choses.
Mm.
Pour revoir ces choses, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le. Il y a le Parlement. Au sein du Parlement, de notre Parlement, dans le Parlement constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale, toutes les deux chambres ont la commission d'environnement qui s'occupe de ces problèmes.
Et au niveau de la société civile?
La société civile congolaise, il faut voir s'il y a des problèmes. Hein, parce qu'aujourd'hui, la société civile n'est pas société civile, c'est plutôt politisée. Il y a plein de politiques. Et aujourd'hui, je ne fais pas la propagande, il y a la nouvelle société civile congolaise qui est créée. Je suis membre de cette société civile. Mmh. On essaie un peu de revoir les choses en profondeur pour remettre... Pour que la société...
Est-ce que la nouvelle société civile n'est pas aussi également politisée?
Bon, politiser, c'est trop dire, mais politiser, ça veut dire que quand vous avez une tendance à appartenir à tel groupe ou à tel autre groupe, c'est ça la politisation. Mais on essaie de remettre, de revoir certaines choses. Hein.
Bien, on va y revenir en étant d'accueillir deux auditeurs, Laurent Kadiwe de Kananga et Célestin Kabeya, de Kananga également. Laurent Kadiwe, bonjour.
Bonjour monsieur.
Alors, on parle de l'exploitation forestière aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
On a tendance à accuser les ruraux d'être responsables de la déforestation. Mon point de contexte, c'est que la déforestation est due à l'expropriation des paysans par les capitalistes agraires. Je vous en remercie.
Veuillez répondre, Laurent. Qu'est-ce que vous voulez nous dire exactement?
Les capitalistes agraires, c'est tous les gens qui obtiennent des concessions, aussi bien les nationaux que les étrangers.
Mmh.
Le fait d'occuper beaucoup d'espace, ils chassent les agriculteurs qui sont obligés de ne pas respecter le cycle normal de la jachère. Mmh. Ainsi, il y a plus de déforestation que par le passé.
Mmh. Merci Laurent. C'est le 5 Kabeya de Kananga, on vous écoute. Bonjour.
Bonjour à la radio Kati.
Oui, on vous écoute.
Bon, moi j'ai en fait... une question à poser à notre invité.
Mmh.
Bon, j'aimerais demander à notre invité s'il puisse un peu me donner le nom des grands arbres qui profitent vraiment à l'exploitation ou soit à l'activité économique, soit de l'individu qui exploite, soit pour le pays, notre pays, la RDC en général. Bon.
Merci. Il veut savoir quelles sont les essences qui sont beaucoup plus exploitées. Et Laurent revient sur les exploitants qui chassent les agriculteurs qui ont laissé les terres en jachère parce qu'il faut exploiter les bois. Voilà. Donc tout ça, ça pose un problème. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Oui, Laurent de Canada a parlé de qu'on accuse les autochtones qui sont en train d'exploiter les forêts. En fait,
mais parce que la déforestation,
c'est vraiment un faux problème. Si vous regardez la quantité d'arbres coupés par les autochtones et vous regardez ce que les exploitants
coupent,
non, c'est rien. Parce que souvent, les autochtones exploitent le bois mort. Quand
pour faire le charbon de bois,
Les macas, mais souvent c'est les bois morts, hein, c'est le bois muet, c'est-à-dire quand les branches de bois sont mortes, on les exploite, mais cette exploitation par rapport à l'exploitation industrielle dont nous déplorons ici, c'est vraiment minime, infime, et on ne peut pas parler de l'exploitation des forêts. Bon, après tout, les autochtones doivent vivre de leurs forêts. Mais l'exploitation dont nous faisons allusion aussi, c'est l'exploitation industrielle qui ne profite pas aux autochtones. Ça, c'est vrai, nous venons de dire, nous venons de parler pourquoi ça ne profite pas aux autochtones, parce qu'il n'y a pas un suivi, il n'y a pas le suivi des cahiers de charges qui est au départ bien établi.
Il n'y a pas de sérieux.
Il n'y a pas de sérieux. Donc, il faut en principe, c'est un pays de droit, il faut en principe que l'État doit suivre en amont qu'on avale les activités des gens à qui il a donné les permis d'exploitation.
Il y a un auditeur qui nous a dit, et qui a même certains exploitants qui ont des permis non signés.
Ah, mais c'est ça, allez voir.
Qui s'amènent avec des policiers pour s'imposer, on chasse les villageois, et ils commencent l'exploitation.
Mais c'est ça, c'est une réalité. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand quelqu'un amène un papier non signé? Vous comprenez, c'est un désordre. Et quand on amène. Alors maintenant, ces gens-là devraient aller se plaindre auprès de la police, mais la police elle-même vient avec ces gens. Vous comprenez, c'est vraiment un grand problème qu'il faut résoudre en réalité, et qu'il faut résoudre. C'est-à-dire qu'il faut mettre du sérieux dans ce domaine, et qu'il faut redynamiser la société civile pour faire de lobbying et lutter contre ces antivaleurs.
Et pourquoi la société civile n'arrive pas à faire ce lobbying dans
parce qu'elle n'est pas organisée. Parce qu'elle n'est pas organisée.
Qui doit l'organiser?
Bon, souvent quand il y a des organisations, quand vous faites une organisation sérieuse, vous faites des réclamations, vous parlez, vous marchez, et qu'est-ce qu'on dira? Si vous n'êtes pas de l'opposition, vous êtes de la majorité. Donc vous comprenez, c'est chose pareille. Donc dans notre pays, nous avons le droit de réclamer, nous avons le droit de marcher quand les choses ne marchent pas. Mais quand vous marchez, on va dire, bon,
il est soit ça que vous êtes tel tendance,
tel tendance, c'est ça. C'est ce qui fait que beaucoup de gens ont peur de réclamer ou de faire quoi que ce soit, parce qu'on va nous envoyer les militaires, les policiers qui vont
les tabasser, les brutaliser.
Les brutaliser. Bon, les gens ne veulent pas. Mais il y a des courageux qui peuvent le faire. On peut vous coller une étiquette que vous êtes l'opposition, vous avez fait ceci. Vous comprenez. Nous avons vu des gens, des Libanais qui viennent avec des généraux venir tabasser les gens pour ces genres de problèmes. Donc, il faudrait à un moment donné que la société civile s'organise et que l'État prenne ses responsabilités. Ça, c'est le niveau-là de l'État. Vous savez, il y a la loi Bataille, que ce soit si cette loi est encore dissoute, on dit que les sous-sols appartiennent à l'État. C'est l'État qui doit gérer ses ressources naturelles. Évidemment, il y a des lois, il y a les codes forestiers qu'on a mis sur pied. Il faut que ces codes soient respectés.
Alors, on va terminer avec la question de Célestin qui vous demande quelles sont les essences de bois qui sont beaucoup plus exploitées.
Ah oui, je veux dire à Célestin, je suis environnementaliste, je ne suis pas forestier, mais je sais que le bois comme le Wenge, par exemple, le Wenge, c'est un bois très recherché. Je peux le recommander d'aller consulter peut-être l'Internet pour voir. Il y a beaucoup d'essence. Dans ces pays, on a recensé récemment plus de 11 000 espèces de bois dans notre pays, et c'est beaucoup. Et s'il faut énumérer toutes ces espèces-là, c'est un grand problème.
Ça prend du temps. Professeur Jean-Pierre Béat, environnementaliste, merci et bon début de semaine.
Merci beaucoup. Oui.